Radio Kapi.
Bienvenue à ce journal que vous présente Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. Plusieurs effets destinés aux enfants de la RDC et à la riposte Ebola coronavirus, partis en fumée ce vendredi. Un incendie a ravagé les entrepôts de l'UNICEF Kinshasa et Texafrica. Les sapeurs-pompiers de la MONUSCO et de l'hôtel de ville ont pu éteindre le feu dont l'origine n'est pas connue. Dans l'actualité aussi, ce don du Japon à la RDC, 4 500 000 dollars, c'est la valeur de l'équipement et matériel médical destiné à l'hôpital général de référence de Kinshasa. La RDC et le Japon ont signé une note dans ce sens hier à Kinshasa. L'invité de ce journal, Abdoulaziz Thioy, directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, il nous parle du dernier rapport de ce bureau sur les violations et atteintes aux droits de l'homme au premier semestre 2020 en RDC. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par cet incendie déclaré aujourd'hui dans les entrepôts de l'UNICEF dans l'enceinte du complexe UTEX Africa ici à Kinshasa. D'après plusieurs témoins, notamment des agents des différents organismes qui travaillent dans ce complexe immobilier, l'incendie se serait déclaré à l'intérieur du bâtiment. Plus de détails avec vous, Julien Nyamouini.
C'est une immense fumée noire qui a envahi le complexe UTEX Africa dans la commune de Ngaliema. D'après des témoins interrogés sur place par Radio Okapi, personne n'est capable de déterminer l'origine du sinistre. Ce que l'on sait pour le moment, l'incendie serait parti de l'enceinte même des entrepôts qui contenaient plusieurs effets destinés aux enfants de la RDC. Côté dégâts, les entrepôts ont été éventrés par les feux. Les témoins expliquent que de motos, des objets classiques et de groupes électrogènes destinés aux élèves et aux différents projets en RDC n'ont pas tous été évacués. Les sapeurs-pompiers de la MONUSCO et de l'hôtel de ville se sont évertués à circonscrire d'abord l'incendie pendant plusieurs heures avant de l'éteindre. Des mesures de sécurité ont été prises et renforcées par des autorités avec la présence de la police nationale congolaise et le contingent égyptien.
Côté bilan, pas de blessés, mais des dégâts matériels importants enregistrés à la suite de cet incendie dans les entrepôts de l'UNICEF Kinshasa à UTEX Africa. Beaucoup de matériels destinés à la riposte contre Ebola et le coronavirus sont partis en fumée. C'est ce qu'affirme Jean-Jacques Simon, chargé de communication de l'UNICEF. Il est joint par Babel Mpongo Massimango.
Il est toujours en train de brûler cet entrepôt. Malheureusement, il a été complètement détruit. Il y avait beaucoup de matériel destiné aux enfants, destiné à leurs parents. On ne comprend toujours pas pourquoi et comment ça s'est déclaré. Il y aura une enquête, c'est clair. Mais pour le moment, on doit constater qu'il y a eu beaucoup de destruction. Alors, c'était du matériel comme du chlore, des seaux et plus encore, qui était destiné à, malheureusement à la riposte Ebola et la riposte aussi contre la Covid. Il y a des assurances, il faut le savoir, et on va tout faire pour ramener ce matériel dans les prochaines semaines. C'est urgent. On a pu sauver un peu de matériel, mais il y en a beaucoup. La grande majorité des items qui étaient dans l'entrepôt a malheureusement brûlé. Il n'y a eu aucun blessé à ce qu'on sache à ce stade-ci. Heureusement, les pompiers de la ville de Kinshasa sont venus en renfort assez rapidement. Ils sont toujours à pied d'œuvre. On les remercie d'ailleurs énormément. Il y a aussi la MONUSCO qui est juste à côté de nos bureaux, qui est venue en aide avec un camion et des hommes en uniforme pour nous aider à éteindre ce feu qui est toujours en train de brûler.
L'Union pour la Nation Congolaise, le parti de Vital Kamerhe, a organisé des marches à travers le pays pour exiger la libération du directeur de cabinet du chef de l'État. Ce dernier est condamné à 20 ans de travaux forcés et détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Bien qu'interdite dans la capitale, la marche a bel et bien eu lieu dans plusieurs artères de Kinshasa, sans itinéraire précis et non encadré par la police. Reportage de Paul Matendo.
Partie du siège de l'Union pour la Nation sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu, les jeunes de ces partis portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire, par exemple, « Libérer Kamerhe ». Selon Angèle Nzumba, présidente de la jeunesse de l'UNC, Vital Kamerhe a été condamné de manière injuste.
C'est pour réclamer la liberté de notre leader, l'honorable Vital Kamerhe. Qu'il a été condamné injustement.
Parmi les manifestants, les enfants de Kamerhe qui ont refusé de s'adresser à la presse.
Preuve marché.
pour sa part, Jean-Marie Bunyungu, chargé d'études et stratégie au sein de ses partis, Vital Kamerhe, de son parcours politique, n'a jamais rien détourné.
Le directeur de cabinet a été directeur de campagne du président actuel Étienne Félix Tshisekedi. Il a détourné combien comme directeur de campagne? Comme président de l'Assemblée nationale, il a détourné combien? Comme ministre, il a détourné combien?
Interdite ici à Kinshasa, cette marche n'était pas encadrée par la police nationale congolaise.
Notez qu'en province, au Nord Kivu, plusieurs dizaines de militants de l'UNC encadrés par la police ont marché pacifiquement ce vendredi à Goma. À Mbujimayi, la marche a été plusieurs fois perturbée par des personnes non autrement identifiées. À Kisangani, la marche projetée par les militants de l'UNC Tshopo n'a pas eu lieu comme initialement prévu. Sud Kivu, le militaire des FARDC qui avait tué 14 personnes à Sangé la semaine dernière est enfin aux arrêts. Il venait d'être appréhendé ce vendredi à Nyangezi, dans le territoire de Walungu. Ce sont les jeunes de cette localité qui ont réussi à dénicher sa cachette alors qu'il était en cavale depuis une semaine. Le porte-parole des opérations Sokola 2 au sud du Sud Kivu confirme l'information. Le capitaine Dieudonné Kasereka indique que cet élément des FARDC sera remis à la justice militaire dans les heures qui suivent pour la suite de la procédure judiciaire, rappelant que cet élément du 122e bataillon des FARDC dans la plaine de la Ruzizi avait tué à bout portant 14 personnes dans la cité de Sangé le soir de jeudi 30 juillet 2020. Nord Kivu, une trentaine de pêcheurs congolais ont été arrêtés, torturés puis relâchés par les marins ougandais mercredi et hier jeudi sur le lac Édouard, près de Nyakakoma en territoire de Rutshuru. C'est dans la zone frontière lacustre entre la RDC et l'Ouganda. Ces incidents interviennent 3 jours après l'arrestation la nuit de dimanche à lundi dernier de 10 pêcheurs ougandais par les marins congolais. Le récit de Bernardin Nyangi.
C'est depuis lundi soir que les marins ougandais s'attaquent aux pêcheurs congolais opérant sur le lac Édouard, indiquent les sources du comité des pêcheurs de Vichumbi, Nyakakoma. Ces Ougandais auraient déjà saisi le carburant et la production de pêche d'au moins 50 pirogues de pêche appartenant aux Congolais. Et mercredi et jeudi, ils ont arrêté, torturé et relâché main bredouille 39 pêcheurs congolais. Cela du fait que, suite aux mesures contre la COVID-19, ces marins ougandais ne seraient pas autorisés d'amener les détenus congolais dans leur pays, dit le vice-président de la société civile de Nyakakoma. Celui-ci plaide pour l'implication du gouvernement congolais, Kakule Make.
Les marins ougandais patrouillent sur les lacs avec des bâtons avant-hier. Ils ont torturé 30 pêcheurs congolais de Kavinyonge et ce matin, ils viennent d'en torturer 9 autres. Et nous voulons les amener à l'hôpital. Ces marins sont en train de dire qu'ils agissent en représailles contre l'arrestation des leurs. Maintenant, ils ravissent même les matériels des pêches des Congolais. Nous voulons que notre gouvernement intervienne.
Rappelons que les 10 pêcheurs ougandais arrêtés la nuit de dimanche à lundi par les marins congolais seraient détenus depuis mercredi dans une prison à Rutshuru. Le comité des pêcheurs du lac Édouard pense qu'il y a urgence de baliser la frontière liquide entre la RDC et l'Ouganda sur ce lac. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, 4 500 000 $ sous forme d'équipement et matériel médical destiné à l'hôpital général de référence de Kinshasa, une assistance du Japon à la République démocratique du Congo. La signature de l'échange de notes à ce sujet a eu lieu hier à Kinshasa entre la ministre d'État en charge des affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, et Hiroshi Karine, ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, témoin de l'événement, Billy Van Lutumba.
Ce don entre dans le cadre du programme de développement économique et social en faveur de la RDC. L'ambassadeur du Japon précise que son pays place le soutien sanitaire parmi les grands piliers de sa coopération avec la RDC. Ceci afin d'aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à garantir la sécurité humaine à toute sa population par le renforcement de son système sanitaire. Ainsi, le pays pourrait faire face aux différents défis sanitaires actuels, notamment la pandémie de la maladie à COVID-19. Côté congolais, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, a exprimé toute sa gratitude au peuple japonais et à son gouvernement suite à la signature de cet échange de notes de 4 500 000 $ qui, substantiellement, devront aider l'hôpital général provincial de référence de Kinshasa à accroître ses capacités à prendre en charge des malades de la ville de Kinshasa et de manière générale tous les Congolais. Signalons qu'après cette signature, il reste que l'hôpital général provincial de référence de Kinshasa entre en possession de cet apport japonais selon la procédure en la matière.
Rendons-nous dans la province de l'Équateur. Grogne ce vendredi des prestataires au centre de traitement d'Ebola à Mbandaka. Les manifestants réclament 2 mois de primes non payées. Ils ont brûlé des pneus pour exprimer leur colère, ce qui a paralysé pendant quelques heures les activités de prise en charge des malades d'Ebola. Les autorités sanitaires descendues sur les lieux ont convaincu les manifestants à reprendre le travail en attendant la solution de Kinshasa dans un bref délai selon ces autorités. Le point avec Paul Richard Malengela.
Tôt ce vendredi, les passants ont aperçu un grand feu devant le CTE de Mbandaka. Il a été allumé par environ 50 prestataires du centre qui ont boycotté le travail. Ils revendiquaient ainsi 2 mois de leurs primes impayées.
Nous avons passé 2 mois sans être payés. Jusque-là, on ne voit pas une réaction positive du gouvernement. C'est comme ça que nous avons dit que nous devons déserter les postes pour attirer l'attention du gouvernement envers nous.
Et deuxième chose, nous sommes aussi mécontents parce que notre gouvernement dit qu'on ne doit pas nous payer. Parce qu'on attend les barèmes. Nous ne sommes pas d'accord avec ces barèmes-là du gouvernement. Que les partenaires puissent nous payer et que le gouvernement ne puisse pas mettre leurs yeux sur nous, les gens des ripostes.
La tension a été vive, mais alertée, le secrétaire général à la santé, qui séjourne maintenant dans la ville, est descendu sur les lieux avec d'autres autorités et partenaires de la riposte. Ils ont réussi à calmer les esprits jusqu'à obtenir la reprise des activités. Un compromis a été trouvé, ce que souligne le point focal du ministère de la Santé au CTE. Docteur David Kouibé.
On a parlé ensemble avec tous les staffs et les partenaires et les prestataires et moi, le point focal du gouvernement. On s'est entendu sur un point que les revendications ont été envoyées au niveau de Kinshasa et nous attendons un feedback d'ici 2 jours.
Rappelons que 3 jours auparavant, les techniciens du laboratoire à Mbandaka ont également manifesté pour les mêmes revendications. Mbandaka, pour Chamalengela, Radio Okapi.
Merci de nous recevoir dans le territoire de Mwanda au Congo central. Ici, le service de l'environnement conditionne la réouverture des écoles et lieux de culte par la désinfection préalable fixée à 100 000 francs congolais, frais à payer auprès de ces services. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, la société civile de Mwanda dit saluer l'initiative prise par le service de l'environnement pour contrer la propagation du coronavirus. Cependant, elle s'oppose au paiement des frais y afférents. Nana Plurish Mambou nous en dit plus.
Ces communiqués de la Société civile du Congo central coordination territoriale des Mwanda signés par le coordonnateur de cette structure, Gelson Sisivimpi, révèlent que les services de l'environnement du territoire des Mwanda initient la désinfection obligatoire et monnayable des lieux de culte avant reprise des activités dans ces sites fermés durant près de 120 jours. Dans ces communiqués, la Sosicoc Mwanda salue cette initiative des services environnementaux visant à contraindre la propagation de la maladie à coronavirus. En revanche, au regard de l'article 53 de la Constitution qui stipule, tout Congolais a droit à un environnement sain et propice pour son épanouissement, et compte tenu de l'impact de la pandémie sur la situation socio-économique, la Sosicoc Mwanda s'oppose à l'idée de monnayer cette opération de désinfection à Mwanda. Surtout, pas au montant des 100 000 francs congolais qu'exigent ces services, du fait que la reprise des activités des lieux de consommation n'a pas fait objet d'une telle condition. Pour ce faire, ce communiqué rappelle l'État congolais les devoirs constitutionnels édités dans les derniers alinéas de l'article 53, qui stipule « L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations ». Ainsi, ces mouvements citoyens appellent à une opération de désinfection gratuite des lieux de culte et d'établissements d'enseignement de Mwanda. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Actualité, Afrique monte.
En Inde, la barre des 2 millions de contaminations au coronavirus a été franchie. Aujourd'hui, l'épidémie gagne de nouveaux états et progresse notamment dans les zones rurales. 3 semaines après avoir franchi la barre du million de personnes infectées par le coronavirus, l'Inde vient de passer celle des 2 millions. Elle a enregistré hier sa plus forte hausse journalière avec 62 000 nouveaux cas. En Afrique, pendant ce temps, le manque des tests dans certains pays brouille les chiffres du coronavirus. En effet, l'Afrique compte désormais officiellement plus d'un million de cas confirmés de COVID-19, mais selon de nombreux experts du secteur de la santé, la présence réelle du coronavirus sur le continent pourrait être bien plus importante. La pandémie a déjà coûté la vie à près de 22 000 personnes sur le continent, selon le bureau régional de l'OMS, et le nombre des cas déclarés positifs a officiellement dépassé le million la nuit dernière. Côte d'Ivoire, vif débat autour de la constitutionnalité de la candidature Ouattara. Dans son discours à la Nation hier, le président ivoirien a confirmé qu'il briguerait un 3e mandat lors de l'édition spéciale consacrée par RFI à cette annonce. Les débats ont notamment porté sur la constitutionnalité de cette candidature.
L'invité.
Il s'agit de Abdulaziz Thior, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce bureau vient de publier un rapport sur les principales tendances documentées des violations et atteintes aux droits de l'homme pour le premier semestre 2020 en RDC. Abdulaziz Thior s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko.
Abdulaziz Thior, bonjour.
Bonjour.
Oui, le bureau conjoint vient de publier un rapport sur l'état des droits de l'homme en RDC au premier semestre de 2020. Quelles sont les différentes tendances de ces rapports, monsieur le directeur?
Effectivement, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié le rapport sur les tendances des droits de l'homme pour le premier semestre de l'année 2020. Effectivement, avec un chiffre très élevé de violations et atteintes aux droits de l'homme, dont 91% sont attribuables aux groupes armés. Donc, cette augmentation qui est très élevée est due à une croissance des atteintes aux droits de l'homme attribuées aux groupes armés, principalement dans les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud-Kivu, du Tanganyika, mais également une partie du Maniema. Globalement, les provinces les plus touchées sont les quatre que j'ai dénommées.
4113 violations et atteintes aux droits de l'homme, dont 91% attribuables aux groupes armés. Certains attribuent cette recrudescence, notamment à l'est du pays, à l'absence de l'autorité de l'État et à un déficit de plaidoyer du bureau conjoint dans l'est du pays. Que répondez-vous?
Absence de l'autorité de l'État, oui, on peut peut-être le dire, même si ça ne peut pas justifier la crise des groupes armés avec le taux de résultats meurtriers que nous avons documenté. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'en réalité, il y a des conflits de longue date hein, qui ressurgissent, notamment le cas de l'Ituri, parce que l'Ituri aujourd'hui est l'une des provinces les plus affectées. Si nous avons une augmentation aussi importante que aussi à cause de l'Ituri.
Et en ce qui concerne votre plaidoyer
qui, alors, en ce qui concerne mon plaidoyer, nous avons, je pense, cette année, changé un peu de stratégie où nous avons documenté de façon assez régulière, avec des mises à jour régulières, les situations en Ituri, par exemple. Vous l'avez vu que nous avons fait coïncider la sortie du rapport sur l'Ituri avec la visite de Madame la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Ça, c'est une action de plaidoyer. Il s'agissait pour nous de faire un état de situation, mais en même temps de faire venir celle qui est au niveau des Nations Unies à la responsabilité de faire un plaidoyer au niveau mondial sur tout ce qui est respect des droits de l'homme pour réellement de visu constater la situation et engager un plaidoyer au niveau international. Depuis lors, elle a engagé ce plaidoyer. Ce plaidoyer-là, en plus de nous, les plaidoyers que nous avons pu faire au niveau national avec les autorités, vous avez vu effectivement qu'il y a eu un renforcement de la présence des FARDC, un renforcement de la présence de la MONUSCO, mais également des efforts aujourd'hui qui tendent à essayer de trouver une solution pacifique au conflit. Donc, le plaidoyer, il est fait. Donc, documenter la situation est déjà un élément de plaidoyer. Ça nous permet de pouvoir faire une analyse de situation, de pouvoir identifier les problèmes et de faire des recommandations.
Oui, monsieur le directeur, malgré vos efforts que vous venez de souligner, surtout vos efforts d'appui aux juridictions militaires et l'état de droit prôné par les autorités, on a l'impression que c'est tous les pays qui s'embrasent dans la commission des violations des droits de l'homme. Que faire alors d'autres pour arrêter l'hémorragie?
Bon, dire que c'est tous les pays qui s'embrasent, je pense que c'est...
Je ne suis pas pessimiste, hein?
Oui. Voilà. Donc, je pense qu'il faut. C'est vrai que le bilan est lourd. Le nombre de victimes attribuées aux groupes armés est très élevé. 1315 est un chiffre très très élevé. Si 1315 personnes ont perdu la vie, dont des femmes et des enfants, c'est un chiffre très élevé. Et pour autant, on ne peut pas dire que le pays s'embrase, parce que je pense que la RDC revient de loin. Que je pense qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup plus de provinces affectées par le conflit qu'aujourd'hui. Il faut essayer de trouver des solutions durables à ce conflit, éviter la résurgence.
Quelles sont ces solutions, selon vous?
Alors, les solutions, la lutte contre l'impunité, vous avez bien fait de le mentionner, c'est un aspect que j'ai oublié dans le travail de plaidoyer, parce que l'essentiel du travail de documentation que nous faisons sert d'élément de base à la justice nationale, et qu'elle soit aussi à la justice internationale pour initier des poursuites. Parce que la sanction, elle est importante. Donc, il faut évidemment créer les conditions pour promouvoir la paix, mais il faut aussi promouvoir la paix ne devrait pas se faire au détriment de la justice et du droit à la réparation des victimes. Donc c'est un aspect qui est extrêmement important. Pour les solutions, il faut, je pense, essayer tant bien que mal de mettre en place, comme nous l'avons indiqué dans un de nos rapports, un programme sur le désarmement des mobilisations qui est attractif. Je devrais souligner qu'au cours des dernières années, on le sait, il faut aller vers ça. Il faut aller vers un programme de DDR attractif. Mm-hmm. Mais il faut surtout adresser les conflits à la racine. Les racines du conflit, on les connaît. C'est une impunité qui persiste. Ces groupes armés sont les mêmes qui ressurgissent qui continuent à violer, piller. Donc, il faut travailler sur ces aspects-là de manière à pouvoir mettre en place, par exemple, un programme de justice transitionnelle qui est attractif. Il faut donner la possibilité à certains de pouvoir rejoindre un processus, de réconciliation et de vérité et peut-être poursuivre aussi les auteurs des crimes graves.
Monsieur Abdulaziz Tioy, je vous remercie.
Merci.
Voilà, c'était notre invité Abdulaziz Tioy, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il répondait aux questions de Jean-Pierre Elali Koko. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, coordonné par Alain Rongouchinj, supervision de Julien Nyamweni. Alain Ngoy était à la technique et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci et très bonne suite des programmes sur Radio Capi.